9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Charles Bonner pour le journal de 7h30.
Avec à la une ce matin, le déficit public se creuse. L'INSEE publie le chiffre à l'instant, 5,5% du PIB en 2023, bien supérieur aux prévisions du gouvernement. Après l'attentat de Moscou, il y a 4 mois des Jeux Olympiques, la menace terroriste mobilise 4000 militaires en plus. Et puis un collectif veut poursuivre TikTok en justice pour les préjudices subis par les adolescents.
Après le journal L'Écho du Monde, ensuite le journal imprévisible et le décryptage de David Barrault. Le déficit de la France se creuse.
Et les chiffres éloignent le gouvernement de ses objectifs. L'INSEE publie à l'instant le déficit public pour l'année 2023. 5,5% du PIB. C'est bien au-delà de l'estimation du gouvernement de 4,9% et qui va donc rendre difficile la réduction à 3% en 2027. Éric Mauban, comment peut-on expliquer ce dérapage du déficit public ?
Eh bien, d'abord, la pandémie de Covid-19 a entraîné d'importantes dépenses publiques pour soutenir l'activité économique et le pouvoir d'achat des ménages. Ces dépenses ont pu être sous-estimées par le gouvernement. Par ailleurs, la reprise post-Covid s'est avérée plus lente que prévu. En conséquence, eh bien, des recettes fiscales comme l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et également la TVA ont manqué à l'appel. À cela, ajoutons le niveau élevé des taux d'intérêt et le contexte géopolitique et qui ont pesé sur l'activité économique de nos partenaires européens et par conséquent sur celle du pays. Enfin, il faut signaler qu'en France, le fait de réduire les dépenses publiques ou même d'augmenter les recettes fait l'objet d'une fronde de la classe politique qui réduit évidemment la marge de manœuvre du gouvernement et retarde les réformes structurelles de nature à redresser les comptes publics.
L'éclairage d'Éric Mauban et l'INSEE publie également le chiffre pour la dette publique qui atteint 110,6% du PIB en 2023. Il y a donc les finances publiques, mais d'autres priorités du gouvernement, c'est la menace terroriste avec l'alerte qui est rehaussée au niveau le plus élevé après l'attentat de Moscou. Et avant les Jeux Olympiques, 7000 militaires au total vont être déployés dans le cadre de la mission Vigipirate. Lauriane Toulmont.
De Moscou à Paris, une même menace.
L'ennemi, il a un nom, c'est le terrorisme islamiste.
Le Premier ministre Gabriel Attal.
La branche de l'État islamique qui a revendiqué l'attentat de Moscou a développé plusieurs projets d'attentats visant des pays européens, notamment la France et l'Allemagne, ces derniers mois. Un projet visant la ville de Strasbourg avait notamment été identifié et heureusement, nous avions nos services ont pu interpeller les personnes.
Rien que depuis le début de l'année, 2 attentats ont été déjoués, annonce le chef du gouvernement. Le 10 janvier dernier, un projet contre des cibles juives qui pouvait aussi viser une boîte de nuit LGBT, selon Place Beauvau. Encore plus récemment, un partisan de Daesh préparait un attentat contre une église. Il a été arrêté il y a 3 semaines. Pas de répit pour les forces de l'ordre qui doivent être sur tous les fronts alors que l'été s'annonce encore plus tendu, reconnaît le député Renaissance de Paris, Sylvain Maillard.
Les écoles, les lieux de culte évidemment, mais les lieux de rassemblement, c'est tous les jours. On a besoin de cette protection et l'ensemble des forces de sécurité est là pour nous protéger. Et puis évidemment, on pense aux Jeux Olympiques et nous serons prêts pour les Jeux Olympiques.
Face à la menace terroriste pendant les JO, le gouvernement cherche à la fois à alerter et à rassurer. Après-demain, le ministre de l'Intérieur fera de nouveau le point avec la Direction Générale de la Sécurité Intérieure.
Et c'est aussi dans ce contexte que des dizaines d'établissements sont la cible de menaces, d'attentats sur les ENT. Ce sont les espaces numériques de travail qui servent aux échanges entre enseignants et élèves. 130 menaces recensées en seulement 5 jours. En Russie, après l'attentat qui a fait au moins 139 morts dans une salle de concert, Vladimir Poutine reconnaît que les auteurs sont des islamistes radicaux, ce qu'il n'avait pas fait jusque-là. En revanche, il continue de désigner l'Ukraine, je cite, comme commanditaire.
496 interpellations après des opérations Place Net.
Des opérations de police d'envergure contre le trafic de drogue. Ce nombre d'interpellations concerne à la fois Marseille la semaine dernière et puis les 4 opérations d'hier à Lille, en région parisienne, à Dijon et dans l'agglomération lyonnaise. À Gaza, les combats continuent. Ce matin, le ministère de la Santé du Hamas fait état de 70 morts, notamment dans des frappes à Rafah, dans le sud. Israël va continuer la guerre tant qu'il y aura des otages, dit son ministre de la Défense. Malgré cette résolution votée hier par le Conseil de sécurité des Nations Unies, une résolution qui appelle à un cessez-le-feu, les États-Unis, alliés d'Israël, se sont abstenus. Alors la résolution est un moyen de pression diplomatique, mais ne devrait pas changer grand-chose dans l'immédiat, selon Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po.
Cette résolution onusienne, d'abord, elle a le mérite d'exister. Néanmoins, il n'est pas sûr que ça change quoi que ce soit. Si les belligérants ne se mettent pas d'accord sur les conditions d'un cessez-le-feu, le Conseil de sécurité peut toujours appeler au cessez-le-feu. Ça ne marchera pas. Le Hamas exige le retrait d'Israël aux frontières, enfin en tout cas aux limites de la bande de Gaza, ce qui pour les Israéliens est strictement inadmissible. D'abord parce que ça signifie qu'ils auraient perdu la guerre, très concrètement, alors que là, le rapport de force leur est extrêmement favorable. Et ça signifierait d'autre part que prendre des otages et aller en tuer en Israël, ça paye. Pour les Israéliens, la condition, c'est la destruction militaire du Hamas. Les Israéliens, ils mettront le temps qu'il faudra, hein, mais ils iront jusqu'au bout.
Frédéric Ancel avec Marine Salaville. La Chine, accusée de cyberattaque contre des institutions en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cela concerne des attaques ces dernières années, des accusations que la Chine a rejetées. C'est un collectif qui veut poursuivre les réseaux sociaux, les tenir responsables du suicide de leurs enfants. Cela concerne en fait principalement TikTok, qui permet de visionner tous les jours des centaines de vidéos dont certaines ont un contenu que l'on peut qualifier de violent, Héloïse Weiss.
Des chorégraphies rigolotes, des cours de cuisine et puis aussi de courtes vidéos pour perdre du poids, se scarifier, se suicider aussi. Un amalgame d'images qui défile en continu sur les écrans des adolescents sans aucun contrôle et avec un objectif, hypnotiser et séduire, comme l'explique Sophie Jeuel, professeure en sciences de l'information et de la communication.
Sur cette vidéo-là, vous êtes resté plus d'une minute, donc ça veut dire que vous êtes intéressé, donc vous allez avoir d'autres vidéos puisque l'intérêt de la plateforme, c'est une plateforme publicitaire.
L'entreprise doit donc protéger les mineurs de ces contenus sensibles. C'est l'objectif d'un recours en justice civile porté par l'avocate Laure Boutrin-Marmion, fondatrice du collectif Algos Victima.
Je me refuse à entendre un argument qui consisterait à dire que dans la mesure où c'est une intelligence artificielle, ils n'en ont pas la pleine maîtrise. C'est parfaitement faux. Ils ont créé cette application. Ils peuvent tout à fait le réguler comme toute entreprise qui a une logique de marché. Ils doivent être évidemment responsables de ce qui est circulé sur cette plateforme.
Car TikTok brille toujours par l'opacité de son fonctionnement malgré un nouveau règlement européen, le Digital Services Act. C'est pourquoi la Commission européenne vient d'ouvrir une enquête pour des manquements en matière de protection des mineurs.
Et en Floride, l'État de Floride veut restreindre l'accès des mineurs aux réseaux sociaux, désormais interdit de s'inscrire pour les moins de 14 ans. Ce sera avec une autorisation parentale jusqu'à 15 ans.
Et vous avez eu droit aux réseaux sociaux à partir de quel âge?
Plutôt vers 15 ans.
15 ans,
ouais,
ben moi c'était 37 ans. 37 ou 38, 38 au moment où Facebook est apparu.
Ce sont vos parents qui vous ont interdit avant?
Bah non, je me le suis autorisé à ce moment-là. Mais il faut dire qu'avant ça n'existait pas. Charles, vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres. À suivre l'écho du monde, le Sénégal a un nouveau président. Et c'est Christian Macarian qui nous le présente. Radio Classique, 7h38.